Bonsoir, une controverse et la riposte de Jean-Luc Mélenchon à la une des informés. Le leader de la France insoumise, lors d'une spectaculaire, on peut le dire, conférence de presse, a réclamé l'annulation de la perquisition menée contre sa formation. Nous reviendrons sur une étonnante séquence venue clore 4 jours de tension politique avec ce soir des questions posées à la suite de l'enquête menée par la cellule d'investigation de France Info sur le financement des campagnes électorales, sur la liberté de la presse. Vous entendrez Vincent Giré, le directeur de France Info, mais aussi sur l'avenir d'un mouvement, la France Insoumise, dont l'une des ambitions affichées est de s'imposer comme premier opposant à Emmanuel Macron. Également, ce soir à la une des informés, l'issue dramatique qui se dessine dans l'affaire de la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Donald Trump admet qu'il est probablement mort. Enfin, j'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. L'ultime album de Johnny Hallyday était déjà un succès. Vous entendrez en fin d'émission les fans de Johnny rendre hommage à une légende française. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Hamdam Mostafavi.
Bonsoir.
Et bienvenue, rédactrice en chef à Courrier International. Avec nous également Céline Boisson, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice associée de l'agence de communication Nude. Également invitée Alexia Germont,
bonsoir
à vous. Présidente fondatrice du think tank France Audacieuse. Vous êtes auteur de Réveillons notre Europe, à paraître jeudi prochain aux éditions Temporis. Et avec nous ce soir, bonsoir Hervé Nathan.
Bonsoir.
Ravi de vous revoir Hervé, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. 15h30 au siège de la France Insoumise, c'est un Jean-Luc Mélenchon en colère avec à ses côtés le député du Nord Adrien Quatennens qui prend la parole devant les médias. Le ton est accusatoire, le leader de la France Insoumise met en garde ce qu'il nomme la Macronie ainsi que et surtout la presse et réclame réparation après les perquisitions de mardi.
Nous demandons l'annulation de cette perquisition et la restitution de tout ce qui a été prélevé à ce moment-là, de le faire d'une manière honnête et exhaustive. Tout ce qui a été pris ici l'a été illégalement et doit nous être restitué.
Hamdam Mostafavi, colère mais également menace, hein.
Oui, c'est une attitude assez étrange, puisque évidemment on peut se dire que s'il n'y a pas de problème, il n'y a rien à cacher dans les comptes de campagne de la France Insoumise. Pourquoi prendre une telle posture? Pourquoi en rajouter? Après, c'est la manière, Mélenchon.
Vous trouvez ce ton excessif, madame?
Je trouve que faire comme si c'était le seul homme politique et la seule formation politique jamais perquisitionnée en France, c'est un petit peu étrange, étant donné qu'on sait quand même d'une séquence qui a commencé avec le FN devenu RN, mais avec l'affaire des assistants parlementaires, on est quand même dans une séquence qui a visé plusieurs partis politiques et qui jusqu'ici n'a pas fait autant d'écho que lorsqu'on s'est trouvé au siège de la France Insoumise.
Céline Boisson, même question avec vous. Est-ce que vous jugez la prestation de Jean-Luc Mélenchon excessive? Il est très énervé.
Il est très agressif et en même temps, moi ça m'étonne pas. C'est le personnage, c'est son image. Il est souvent comme cela. D'ailleurs, tout le temps comme cela. Et en plus, là, il est dans une situation un petit peu difficile. Donc, il se révèle encore plus. Mais oui, évidemment, c'est excessif. D'ailleurs, il est très agressif dans ses mots aussi, et dans son attitude, dans ses gestes aussi. Tout est agressif.
Alexia Germont, il a raison, le patron de la France Insoumise, de réclamer la restitution de ce qui a été saisi mardi.
Non, je pense qu'il se trompe de terrain. En l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon devrait plutôt se souvenir qu'en démocratie, la force du tribun ne saurait supplanter le vote démocratique, quelque part. Donc, il se place sur un terrain d'opposants maltraités. On y viendra certainement sur la justice politique. Et sans aller sur le fond du sujet, je vous rejoins assez, je crois qu'en matière politique, on a vraiment vraiment une responsabilité encore plus forte, et notamment, c'est un sujet sur lequel j'avais pas mal écrit il y a quelques années, éthique et politique. Mmh. Et éthique et politique, c'est aussi dans le rôle du responsable public de respecter la justice.
Mmh. Hervé Nathan, les journalistes que nous sommes sont prévenus, hein, je cite, hein, tous ceux qui titrent sur des facturations, des surfacturations, auront droit à des poursuites. Ça y est, c'est une sorte de guerre qui est déclarée.
Oui, mais alors si les journalistes se laissent impressionner juste par le mot, on va vous envoyer les tribunaux, on arrête de travailler parce que grosso modo, dès que vous faites ce métier, vous avez au bout de 6 mois, vous tombez toujours sur quelqu'un qui va vous dire ça parce que vous lui aurez téléphoné sur une affaire qui ne lui convient pas. En politique, c'est plutôt rare d'ailleurs en politique, mais alors dans moi qui fais des journalismes économiques, je peux vous dire que la menace de me retrouver dans le tribunal, ça a été quelque chose d'assez courant. Donc bon, oui, ça fait partie du métier d'avoir ce genre de menace. Je pense, ce qui ne veut pas dire que Jean-Luc Mélenchon a raison, parce qu'en l'occurrence, il a ciblé l'enquête de cette maison, France Info, et je trouve que s'il y a bien quelque chose sur lequel il a tort, parce qu'il n'a pas tort sur tout, en particulier, par exemple, les fichiers, moi je suis quand même très étonné que la justice ait saisi le fichier de tous les militants de La République En Marche. Je trouve ça bizarre dans une démocratie que, alors que c'est pas un juge, c'est le parquet n'étant pas indépendant, je pense qu'on reviendra là-dessus, il n'est pas totalement indépendant en tout cas, je trouve ça très, très curieux. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin? Je sais pas combien, ils sont 400 000 adhérents, je crois. Plusieurs centaines de milliers. La justice a besoin de savoir, d'avoir un fichier où il y a ces centaines de milliers de noms, elles vont faire quoi? Est-ce que, quand on sait à quel point les choses fuitent dans les services de police judiciaire et autres, j'aurais pas confiance que ce fichier ne se retrouve pas dans la maison d'un parti concurrent, par exemple, assez rapidement. Je pense que là-dessus, on a le droit quand même de dire, quelle garantie la justice donne-t-elle que ce fichier ne sera jamais utilisé, mais jamais au grand jamais, pour de mauvaises fins. Je veux revenir sur ce que j'avais dit au début. Sans prendre à France Info, c'est se tromper parce que je suis revenu au mois de juin, et au mois de juin, c'est sur les comptes d'Emmanuel Macron que la cellule d'investigation de France Info avait sorti des vraies informations qui mettaient en cause effectivement les possibles sous-facturations là à l'époque dont avait bénéficié peut-être le candidat Emmanuel Macron. Voilà, je m'arrête là parce que c'est le moment des informations.
Allez, 20h10, merci de faire le job. 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Jean-Luc Mélenchon demande l'annulation des perquisitions menées mardi matin, entre autres au siège de son parti à Paris. Il souhaite aussi la restitution de tout ce qui a été prélevé. Le chef de file des Insoumis tenait cet après-midi une conférence de presse où il a contesté les faits pour lesquels lui et son parti sont mis en cause. Ce matin, France Info a révélé les surfacturations de certaines prestations lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Une nouvelle agression homophobe à Paris. Lundi, selon France Bleu Paris, un chauffeur de VTC s'en est pris verbalement à deux hommes en train de s'embrasser dans son véhicule. Les deux hommes ont porté plainte ce dimanche. SOS Homophobie appelle un rassemblement place de la République à Paris pour dire stop à ces violences répétées. 150 personnes mobilisées aussi longtemps qu'il le faudra sur les plages souillées du Var, c'est ce qu'indique la préfecture du département. 8 communes font l'objet en ce moment d'opérations de dépollution après la découverte de galettes d'hydrocarbures sur leurs plages. Ces boulettes de fioul proviennent de la collision entre deux navires, c'était il y a 10 jours, au large du Cap Corse. Le parquet turc a entendu aujourd'hui à Istanbul 15 employés du consulat d'Arabie Saoudite. C'est là que s'est rendu le 2 octobre dernier le journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Depuis, il n'a plus donné signe de vie. Le président américain Donald Trump a admis hier la mort probable du journaliste. Après la trêve internationale, retour du championnat de Ligue 1 de football ce soir avec un premier match en ouverture de la 10e journée. Lyon le 6e reçoit Nîmes le 14e. Le coup d'envoi du duel est à 20h45.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors la cellule d'investigation de France Info, Hervé Nathan le rappelait à l'instant, a enquêté sur les comptes de campagne et fait des révélations ce matin à propos de Mediascope, agence de communication dirigée donc par Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon, qui aurait facturé, j'évite de dire le mot, donc certains services à des prix très élevés. Adrien Quatennens, sur France Info ce matin, a tenu à répondre sur le coût global de la campagne de la France Insoumise en établissant une comparaison avec les autres candidats.
La France Insoumise, messieurs, c'est 15 mois de campagne, d'accord ? C'est 11 millions d'euros de budget et un rendement de 20%, notre résultat. Est-ce que c'est une campagne onéreuse ? D'abord, la réponse est non. Vous comparez avec Désolé de prendre cet exemple, Benoît Hamon, c'est 3 mois de campagne, c'est 15 millions d'euros, donc une campagne plus chère, pour un résultat de 6%. D'accord ? Maintenant, venons sur les prestations de communication. Prenons un comparatif avec quelqu'un d'autre qui a vu ses comptes de campagne, lui pour le coup, se faire signifier des irrégularités par la commission, ce qui n'est pas notre cas, Monsieur Macron. Comparatif, l'agence de communication qui a travaillé pour Emmanuel Macron, elle facture les prestations de conseil pour 8 mois, 103 500 euros. Comparativement, Mediascope sur toute la campagne de Jean-Luc Mélenchon, 80 000 euros. Ensuite, petit autre exemple de comparaison, l'agence Jésus et Gabriel qui travaille pour Emmanuel Macron facture la prestation pour un clip vidéo et sa réalisation, plus de 150 000 euros. Mediascope pour 20 clips, messieurs, c'est 108 400 euros.
Alors Céline Boisson, je crois que vous n'êtes pas mauvaise en matière de facturation, de communication. Dites-moi, les arguments du député du Nord de la France Insoumise sont-ils audibles ?
Déjà, c'est très compliqué de comparer et même de juger si c'est cher ou pas cher. C'est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne sait pas combien de personnes ont travaillé dessus. Je trouve ça très très compliqué de juger. Maintenant, effectivement, 80 000 euros sur 15 mois, 1 million 2 sur 12 millions d'euros d'une campagne. Par rapport à ce qui a été fait et par rapport aux résultats, on peut que dire que c'est plutôt ça a été rentable et quand même ça a été la plus belle campagne de communication lors des présidentielles.
Ah, vous dites ça vous ce soir, Hamdam Mostafavi, l'argument aussi de la France insoumise est de dire au fond notre campagne était bien moins onéreuse que celle des autres. Vous pensez que c'est audible aussi de dire ça ?
Disons que c'est un peu étrange. On peut un peu tout faire dire aux chiffres, c'est surtout ça que ça montre. On peut tout leur faire dire, on peut très bien leur faire dire que oui, ça n'a pas coûté cher. De toute façon, je pense que les sommes qui sont en jeu, pour la plupart des Français qui suivent les infos en ce moment, se disent mais pourquoi ça coûte aussi cher ? Comment il est possible que juste faire de la communication, oui, ça coûte aussi cher ? Mais de toute façon, le fait est qu'on peut, à peu près leur faire dire n'importe quoi. Se mettre toujours dans la posture de la victime, c'est un peu aussi justement empêcher qu'on puisse faire la lumière sur ces factures. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Je pense qu'un petit peu de sérénité et de recul là-dedans aurait permis aussi de faire vraiment la lumière là-dessus.
Poursuivez là-dessus, Hervé Nathan.
C'est-à-dire que si on a bien compris, je crois que c'est une accusation qui a été portée par le rapporteur de la commission d'inspection des comptes de campagne, je me trompe de l'intitulé exact, Monsieur de Chavron, il dit en fait qu'il soupçonnait, quand il a lui, le premier alerté sur la régularité des comptes de campagne du candidat Mélenchon, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont fait un matelas qui permettra, qui sera utilisé plus tard pour leurs activités politiques futures. C'est ça qui est soupçonné, en tout cas par Monsieur de Chalon. C'est pas ce que cherche la police ni les magistrats. Non, ça c'est répréhensible selon la loi. Hein. C'est pas fait. C'est normalement pas fait pour ça. Le problème c'est que c'est ça qu'il faudrait arriver à trouver. C'est qu'il faut maintenant que le parquet arrive à démontrer que ben oui ils ont trouvé la cagnotte. Parce que ça veut dire quoi? Ils ont fait une cagnotte. Donc la cagnotte elle est quelque part. Il faudra qu'ils trouvent où est la cagnotte.
Oui, est-ce qu'elle existe?
Si elle existe, elle est quelque part. S'il n'y a pas eu de cagnotte, on revient à la case départ et on se dit bah tiens c'était peut-être pas si cher que ça. Je voudrais juste citer quelques chiffres parce que Mme Chiquiron a dit qu'elle avait, alors elle est au centre de cette affaire-là, d'autant qu'en plus elle est aussi soupçonnée de surfacturation dans l'affaire du Média, ce qu'elle avait créé avec des militants de En Marche. Donc si on regarde combien il y a des gens se sont fait beaucoup rémunérer, c'est d'ailleurs une des nouveautés de la politique contemporaine, c'est que là où avant il y avait des militants, maintenant on a l'impression qu'il y a des vrais professionnels qui défendent bien leurs intérêts. Benjamin Griveaux, qui était juste le porte-parole, il était rémunéré, ça c'est officiel, 7 357 euros net par mois, ce qui doit faire un brut de 11 000 euros par mois. 6 mois, on est déjà à 80 000 euros ou pas loin.
Donc vous voulez dire que ce sont des sommes raisonnables, c'est ce que vous voulez dire.
Je pense que pour les militants, alors je vais vous dire, pour les militants de base de la France Insoumise, qui sont allés distribuer les tracts tous les matins, sans demander un sou, qui ont acheté la colle pour mettre dans les seaux, pour coller des affiches, etc., ont mis l'essence dans la voiture sans demander d'argent, etc., eux, ils doivent être sûrement très écœurés. Ça, pour le coup, eux, ils ont des raisons d'être très contents. Mais prenons un autre exemple. Alors, Madame Pénélope Filon, puisque Monsieur Ladrelle Lacharrière, on l'a appris ce soir, a avoué, elle voulait avoir donné vraiment un emploi fictif, la rémunérait fictivement, c'est-à-dire pour rien faire, 3900 euros net par mois, c'est-à-dire presque 6000 euros chargés. Voilà ce que c'est. Donc, il y a des gens qui se payent très bien auprès du personnel politique, auprès des amis du personnel politique. Mais il faut faut faire la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas.
Alors, à l'instant, je vous annonce la nomination de Philippe Grandjean à la tête de La République En Marche, un proche du président de la République, un marcheur de la première heure, ancien cadre de chez Capgemini, Philippe Grandjean, donc qui prend la tête des marcheurs. Alexia Germain, je vais vous faire réagir. On va d'abord, si vous le permettez, écouter le propos de Sylvain Tronchet, qui enquête au sein de la cellule d'investigation de France Info, qui nous détaille la mécanique de certains remboursements de frais. Et après, vous prendrez la parole, Alexia Germain.
Sophia Chikirou avait une position très singulière dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Elle était à la fois sa directrice de la communication et à la fois l'un des principaux prestataires de la campagne via sa société Mediascope. Ça veut dire que quand la directrice de la communication, Sophia Chikirou, décidait qu'il fallait faire une vidéo, par exemple, sur un sujet, eh bien, elle la commandait à la société Mediascope de Sophia Chikirou. Et ce que nous avons découvert, c'est que certains tarifs pratiqués par Mediascope semblent très chers. Il y a un exemple qui nous a tout de suite sauté aux yeux, c'est la mise en ligne des discours de Jean-Luc Mélenchon sur une plateforme qui s'appelle SoundCloud. C'est très comparable à ce que vous faites si vous tournez une vidéo de vos vacances avec votre caméscope, vous sortez la vidéo et vous la mettez en ligne sur Facebook. Voilà. Ça prend très peu de temps, et ça, c'était facturé 250 euros. Le problème potentiel, et c'est pour ça que la justice s'y intéresse, c'est que les factures de Mediascope, in fine, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon ou son association de campagne qui les paye, mais le contribuable, puisque ces factures, elles sont présentées à la commission des comptes de campagne et remboursées par l'État.
Alors, Alexia Germain, on ne va pas revenir sur le détail des prestations, c'est un peu trop technique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir tout cela sur le site de franceinfo.fr. Mais sur le principe, est-ce qu'au fond, c'est gênant que la patronne de la communication soit aussi le prestataire ?
Je crois que ça pose le problème d'être juge et parti, ce qui est assez rare en l'occurrence.
C'est aussi une organisation politique, on pourrait le défendre ainsi.
Oui, mais pour toute personne qui a approché de près le mode de fonctionnement d'une campagne électorale et qui a eu à discuter avec la CNCCFP, ce qui a été aussi mon cas, par exemple.
Donc la Commission nationale.
La Commission nationale des comptes de campagne et de financement de la politique. Des partis politiques, on voit très bien qu'en fait, vous ne pouvez pas être en même temps dans une entreprise, ça n'existerait pas, demander une dépense et en même temps la signer. Vous avez un principe de double validation. Donc, on est sur des systèmes, moi j'aimerais bien revenir là-dessus pour reprendre un petit peu de oui. recul. D'abord, dans ces montants qui sont considérables, il n'y a pas que des montants de communication, il y a également tous les montants qui vont pour les tracts, dont après ils sont remboursés. Enfin, ce sont des dépenses qui sont considérables. La Poste, quand vous faites une campagne présidentielle, ce sont vraiment des montants très importants. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je trouve que M. Quatennens est revenu très rapidement sur la façon dont la CNCCFP avait traité le sujet. Il faut quand même se souvenir qu'il y avait eu à peu près 4% du montant de la campagne qui avait été retoqué. Je dis la suite après, c'est ça ?
Non, mais pas du tout, mais finissez, terminé.
Voilà, oui. Donc il y a eu quand même plus de 400 000 euros de dépenses qui ont été retoquées avant la validation des comptes de campagne. Et ça, c'est indépendant de l'alerte qu'avait donné le conseiller qui était démissionnaire.
Allez, nous reviendrons sur toutes ces questions en début de deuxième partie des Informés de France Info, mais pour l'heure, il est 20h21, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bennett.
Les élus de l'Indre en colère ce soir après l'annonce de fermeture définitive de la maternité du Blanc. Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Châteauroux a voté en faveur de cette décision. La maire démissionnaire du Blanc, Annick Gombert, parle d'un choix dramatique pour son territoire. Elle en appelle désormais au président de la République. Emmanuel Macron, justement, les médias montrés du doigt aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file des Insoumis a contesté les perquisitions menées contre le siège de son parti mardi matin. Il demande leur annulation, la restitution des pièces saisies. L'ancien candidat à la présidentielle s'en est pris également aux informations de France Info. Nous vous avons révélé aujourd'hui des soupçons de surfacturation lors de la bataille pour l'Élysée en 2017. SOS Homophobie appelle à un rassemblement contre les agressions répétées d'homosexuels à Paris. Le rendez-vous est donné ce dimanche, place de la République, pour dire stop à ces violences. Lundi, un chauffeur VTC a agressé deux hommes en train de s'embrasser à l'arrière de sa voiture. Les deux victimes ont porté plainte. En football, coup d'envoi ce soir de la 10e journée de Ligue 1. Lyon 6e du championnat reçoit Nîmes le 14e. Le coup d'envoi, c'est à 20h45.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons évoquer à présent l'Arabie Saoudite de MDS, le prince héritier Mohamed Ben Salman, dans l'œil du cyclone au fil des révélations jour après jour sur la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Des récits sur son éventuel assassinat s'étalent désormais dans la presse. Le journaliste a-t-il été tué? La question a été posée au président Donald Trump. A-t-il été tué? Est-il mort? Question posée à Trump sur une base militaire américaine dans le Maryland. On écoute sa réponse.
Cela me semble bien être le cas. C'est très triste. Ça semble être le cas. On attend les résultats de trois enquêtes différentes. On devrait en voir la fin rapidement. Les conséquences devront être très graves. C'est mauvais, très mauvais. Mais on va voir ce qui se passe.
Alors, Hamdam Mostafavi, il a été assassiné. Est-ce qu'on en a la certitude aujourd'hui ?
Disons que s'il n'est pas réapparu, on est quasiment presque un mois après les faits, on peut supposer très fortement qu'il a été assassiné. Alors dans quelles circonstances, évidemment, le flou reste assez important sur cette affaire. On peut pas non plus tirer de conclusions trop hâtives, mais on a passé le stade du hâtif, je pense, au bout de 20 jours. On peut supposer, il y a plusieurs suppositions. Est-ce que c'est une opération qui a mal tourné ? On sait, a priori, maintenant, qu'il était proche de certains cercles du pouvoir à Riyad. Donc, on peut supposer qu'on a voulu le faire rentrer en Arabie Saoudite, que l'opération aurait mal tourné. Il y a plusieurs suppositions, mais même le Washington Post, qui encore entretenait un certain espoir, a publié sa dernière chronique que nous avons traduite hier sur notre site internet en disant, voilà, maintenant, il n'y a plus d'espoir, on ne pense pas qu'il va revenir.
Hervé Nathan, qui était vraiment Jamal Khashoggi? Son profil n'est pas celui d'un simple journaliste, reporter, correspondant.
Non, d'abord, lui était issu de l'establishment de saoudien. Donc, effectivement, il avait des relations. C'est un monde assez fermé, hein, le sommet de la pyramide de l'Arabie Saoudite. Il avait ses entrées. Il n'était pas un opposant idéologique au départ. Il n'était pas un révolutionnaire. Simplement un homme qui, tout d'un coup, à un certain âge, en plus, un âge relativement avancé, prend position et, d'une certaine manière, comme il a de l'aura, comme il a des relations, ça pose un problème considérable. Moi, ça me rappelle, alors, il faut faire attention, comparaison et par raison, mais dans le déroulé, ça ressemble à l'affaire Ben Barka qui s'était déroulée en France dans les années 60, où l'opposant par principe au roi Hassan II à l'époque avait été capturé par les services secrets avec la complicité des services secrets français ou de certains des services secrets français, capturé, torturé, assassiné sur le sol français, puis son corps avait disparu, je crois qu'on l'a jamais retrouvé, mais on sait maintenant comment ça s'est passé à la fin. Voilà, il y a une espèce, c'est d'une certaine manière, il y a un traitement parce que il faut essayer d'expliquer, c'est que au Maroc comme en Arabie Saoudite, la trahison du milieu lui-même mérite un traitement spécifique.
Alors Céline Boisson, il y a eu de nombreuses annulations, hein, Bruno Le Maire et tant d'autres personnalités du monde entier qui n'iront pas au Davos du désert, hein, ce sommet économique de Riyad. Ça tourne mal pour l'Arabie Saoudite aujourd'hui ou c'est une péripétie?
Non, je trouve que c'est très grave, que c'est... Alors j'ai lu plein de choses sur Jamal et sur qui il était et ce qui est en train de se passer, mais je trouve ça très grave parce que, personne ne dit rien véritablement. Enfin, Donald Trump évoque que oui, vraisemblablement, il y aura des conséquences, etc. Mais rien n'est dit. Effectivement, Bruno Le Maire annule son déplacement. Et du coup, ça crée une division mondiale, une scission. Et ça rompt, en fait, les échanges et la parole. Et ça, je trouve ça extrêmement grave.
Alexia Germont, il faut rompre avec Riyad? Non.
Non, je crois que c'est un exemple typique de ce que l'on pourrait appeler une réelle politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que l'Arabie Saoudite est l'un des rares pays avec lesquels la France entretient un excédent commercial d'un peu plus de 18 milliards d'euros, ce qui explique quand même énormément de choses. C'est également la première puissance dans le Golfe avec laquelle nous avons des échanges. Il est vrai que le prince héritier Mohamed Ben Salman a essayé, c'est un peu technique, mais c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire qu'il essaye d'enserrer la police religieuse, hein, je vous rappelle que c'est quand même le royaume wahhabite, et donc quelque part, on a tous espéré qu'il y avait une véritable libéralisation.
Madame Mostafaville, peut-être destituer le prince ?
C'est pas impossible. Disons qu'il s'est mis dans une position où son père ou des membres de la famille royale qui peuvent l'estimer trop gênant, parce que c'est pas la première affaire. On est quand même après la guerre au Yémen, après plusieurs épisodes un petit peu gênants. Si ça prend encore une ampleur internationale et surtout que les États-Unis lâchent Riyad dans cette affaire, il n'est pas strictement impossible qu'il soit destitué.
Allez, dans un instant, la météo, le rappel de l'info et on se retrouve pour la deuxième partie des informés de France Info.
Ici, en Amérique du Nord, nos vignobles français doivent séduire une clientèle experte. D'où le recrutement de Kim, notre petit prodige, œnologue de formation en mission VIE pour un an.
En effet, je m'occupe de l'animation du réseau de distributeurs. I love meeting people all over the states. J'adore rencontrer des gens à travers tout le pays. It's awesome.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Business France offre une solution RH de mobilité internationale gagnant-gagnant pour les jeunes talents et les entreprises. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Un beau week-end, beaucoup de soleil demain. Il faudra malgré tout se débarrasser des brouillards matinaux et des nuages bas, notamment vers la Garonne, la Bretagne, la Normandie, le Berry, le Val-de-Saône ou alors la plaine d'Alsace. On n'en parlera plus l'après-midi. Sur les Pyrénées, on gardera un petit risque d'orage, parfois une averse sur le sud des Alpes et la montagne Corse. Il fera un peu frais au nord le matin, 5 à 9 degrés, 7 à 14 en allant vers le sud, jusqu'à 14 à 18 autour de la Méditerranée. L'après-midi, 16 degrés à Dinard, 17 au Touquet, 19 degrés à Paris, 19 aussi à Strasbourg, 21 à Nantes, Dijon, Lyon, 23 degrés à Bourges, Aurillac et Bordeaux, 25 du côté de Toulon et puis on ira jusqu'à 26 degrés à Nîmes. Dimanche, il fera encore très beau, un peu plus frais le matin, mais toujours doux l'après-midi avec une moyenne de 20 degrés au nord et de 23 au sud.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir, le coup près est tombé comme prévu. Le conseil de surveillance de l'hôpital de Châteauroux-le-Blanc se prononce en faveur de la fermeture de la maternité du Blanc d'Ivoix pour 4 contre. Même si c'était attendu, c'est quand même un coup de massue pour les opposants à cette fermeture mobilisée depuis des mois. Une fermeture qui met mal à l'aise certains parlementaires du parti de la majorité, à l'image de François Jolivet, député En Marche de l'Indre, et qui se dit prêt à prendre ses responsabilités.
Le député que je suis est un député qui est libre, et donc à ce titre-là, je pourrais faire ce que je veux en séance avec Madame Buzyn. La ministre, vous savez, a un gros dossier qui s'appelle le projet de loi de finances de la sécurité sociale, et je vais sans doute lui demander comment elle entend que ces réformes passent, parce qu'aujourd'hui la méthode qui est utilisée est facteur d'échec de toute la politique qu'elle pourra mener. Vous savez, un gros avantage, c'est que je ne vis pas de politique, d'une part, et que d'autre part, je peux très bien aller rejoindre d'autres groupes. Tout est ouvert. Je suis dans la posture, pour l'instant, pulsion, après il y a réflexion-action. Quant à être député de La République En Marche, je ne suis pas d'accord avec tout, avec 100% de ce qui s'y fait. Il y a des choses très bien que nous entreprenons, et il y a des conneries qu'on peut faire, et je pense que là, c'est une vraie connerie.
À François Jolivet, le député En Marche de l'Indre, au micro de Régis Servet de France Bleu Berry. Philippe Grandjean lui est désigné par le bureau exécutif de La République En Marche pour assurer l'intérim à la direction du mouvement. Communicant, conseiller politique d'Emmanuel Macron, il a été directeur de la communication de Capgemini avant de prendre sa retraite professionnelle. C'était l'an dernier. Philippe Grandjean assurera l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau délégué général. Ce sera le 1er décembre. Après Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Ramatuelle, ou encore la Croix-Valmer, l'île de Porquerolles est à son tour touchée par des boulettes d'hydrocarbures, sans doute échouées après la collision de deux navires au large de la Corse, c'était au début du mois. 26 plages de 9 communes du Var au total sont désormais touchées par cette pollution. Les opérations de nettoyage ont commencé ce matin sur le continent. L'horizon se dégage à Air France. Après des mois de conflits et de grèves, un accord a été trouvé sur la hausse des salaires cette année et l'an prochain. pour toutes les catégories de personnel de la compagnie, qui obtiennent donc 2% de hausse dès 2018 et autant en 2019. Ils étaient gardés loin des yeux du public depuis deux siècles, des bijoux de Marie-Antoinette exposés à Londres avant d'être mis aux enchères par Sotheby's à Genève. Ce sera le mois prochain. Parmi les plus belles pièces figure un pendant en diamant évalué à entre 1 et 2 millions d'euros. Nicolas Karabatic opéré du pied gauche aujourd'hui. Il sera absent des terrains de handball pendant 4 à 6 mois. Les Bleus devront donc se passer de leur star pour tenter de conserver leur titre mondial. Ce sera en janvier en Allemagne ainsi qu'au Danemark. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, ça continue.
20h21, les informés, Jean-François Aquili.
Les informés de France Info, la deuxième partie avec nos invités, Amdam Mostafavi, rédactrice en chef à Courrier International, avec Céline Boisson, directrice associée de l'agence de communication Nude, avec Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank, du cercle de réflexion, c'est mieux, France Audacieuse, et avec Hervé Nathan, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Alors nous allons revenir sur les conséquences de l'enquête sur les comptes de la France Insoumise et la réaction, la colère pour ainsi dire de son leader Jean-Luc Mélenchon, qui s'en est pris aux médias cet après-midi. Mais tout d'abord, si vous le permettez, j'aimerais que nous terminions ce que nous évoquions à propos de l'Arabie Saoudite. Alexia Germont, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Nous évoquions au fond les relations entre les pays, la France notamment, et l'Arabie Saoudite, la réelle politique. Faut-il sanctionner ce pays et son prince héritier après ce qui s'est produit avec la probable disparition, en tout cas la mort de Jamal Khashoggi?
Il faut faire passer en tout cas des messages extrêmement diplomatiques. C'est ce qu'a commencé à faire Bruno Le Maire. C'est ce qu'ont commencé à faire aussi les patrons des grandes entreprises françaises qui se dédisent par rapport à l'organisation du Davos. Mais c'est là où revient la réelle politique. C'est d'ailleurs la politique aussi de l'Union européenne. C'est que l'ensemble des pays qui ont des contrats avec l'Arabie Saoudite ne peuvent pas se permettre de fermer complètement les vannes. D'autant que il faut quand même ne pas oublier que l'Arabie Saoudite est clé par rapport à l'Iran dans la structure géopolitique locale, et d'où l'importance de la relation entre les Américains et l'Arabie Saoudite, et avec ce personnage au milieu qui est un personnage quasiment de roman, une personnalité très complexe, qui avait fait ses études aux États-Unis, qui est revenu, qui a appartenu aux frères musulmans, c'est donc pas le même courant que le wahhabisme, et qui est parti en mi-2017 se protéger aux États-Unis.
Amdam Mostafavi, c'est donc au fond la balance commerciale contre la disparition, peut-être la mort d'un homme, c'est ça l'idée?
Non, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que justement la mort de cet homme ait un tel retentissement, parce que il faut comprendre pourquoi maintenant cette affaire, parce que c'est pas Jamal Khashoggi, c'est pas le premier dissident qui est mort ou qui a disparu en Arabie Saoudite ou dans quelconque pays du monde arabe ou dans d'autres pays. C'est juste que maintenant, c'est un peu les limites aussi de la politique, de la trumpisation du monde. On arrive aussi à un moment donné où, pourquoi MBS, pourquoi maintenant, pourquoi on est allé aussi loin? Parce qu'il s'est aussi senti, parce que on vous l'évoquait à l'instant, parce que à force de vouloir tout, de contrer l'Iran, de vouloir un peu changer changer l'héritage d'Obama, changer les alliances politiques d'une certaine époque, il y a eu ce sentiment de que tout était possible, qu'il pouvait aller aussi loin en donnant quelques gages à l'Occident, en laissant les femmes conduire, etc. Donc aujourd'hui, on est un peu arrivé à la limite de ça, et je pense que le retentissement de cette affaire, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que ça montre qu'il y a aussi une sorte de ça suffit.
En tous les cas, l'épilogue de cette affaire semble assez proche. Nous n'avons pas fini d'en parler. Non, allez, nous revenons sur la polémique, la controverse autour de Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait de son leader en conférence de presse qui a accusé, France Info d'être une radio d'État à la solde du gouvernement.
Clairement, c'est une offensive délibérée. À la suite de quoi, la radio de l'État s'est lancée dans ce qu'ils appellent une investigation. Après que nous ayons reçu une quantité considérable de papiers posant toutes sortes de questions qui montraient à l'évidence que des pièces du dossier étaient connues avant même qu'elles aient lieu, nous avons eu droit ce matin à la diffusion, sans aucun moyen de réplique, à une série d'affirmations diffamatoires et calomnieuses.
Alors je rappelle au passage qu'Adrien Quatennens a été l'invité pendant une demi-heure ce matin à 8h30 sur France Info, radio et télé en même temps, pour répondre point par point à l'enquête en question. Voici à présent ce que Vincent Giray, le directeur de France Info, a répondu à Jean-Luc Mélenchon sur notre antenne.
Je voudrais faire que des commentaires factuels, rétablir des vérités simples face aux accusations extrêmement graves qui ont été portées contre nous. D'abord, France Info n'est pas une radio d'État, non. C'est une radio de service public. Ensuite, rentrons dans le détail. Ils nous accusent d'avoir coordonné en quelque sorte notre travail éditorial journalistique avec le travail de la justice. Bien évidemment, nous ne le connaissions absolument rien. Il faut savoir que la cellule d'investigation de France Info et de Radio France travaille depuis plusieurs mois, sur chacun des candidats qui ont été à la présidentielle, et donc sur leur budget de campagne. Et donc, nous avons déjà eu l'occasion de travailler, de refaire d'un certain nombre de révélations sur la campagne de François Fillon, sur la campagne d'Emmanuel Macron, sur la campagne de Madame Le Pen. Et bien évidemment, tous ces travaux journalistiques sont trouvables extrêmement facilement en allant sur notre site franceinfo.fr, qui montre qu'il n'y a pas de parti pris contre Jean-Luc Mélenchon.
Voilà donc Vincent Giray, le responsable directeur de France Info. Alors chaque fois qu'un responsable politique fait l'objet d'une enquête, d'une révélation, la réponse qui revient invariablement à Hervé Nathan, c'est le complot.
C'est pas invariable, mais ça arrive. Oui, ça arrive souvent.
Souvent quand même. Hein.
Ça arrive souvent. C'est sans doute la partie la plus mauvaise de l'exercice qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, qui était par ailleurs brillantissime. Moi, j'étais scotché. 45 minutes sans se recouper, sans faire une faute de français, sans faire une faute de syntaxe et sans même bafouiller. Tout ça pour.
Comment est-ce que vous l'expliquez ?
C'était quand même un exercice. Il y a que Jean-Luc Mélenchon en France qui est capable de le faire. Faut même le dire. Et d'une certaine manière, ça fait partie de son personnage. Et il travaillait là-dessus, il a opposé.
Sur le fond,
pense c'est pas, il s'est trompé en s'attaquant aux médias. En revanche, moi, j'estime que le fonctionnement, enfin, ce à quoi on assiste, c'est-à-dire la justice qui prend son temps, qui prend 18 mois, alors qu'elle a été saisie il y a 18 mois que le signalement a été fait, et elle met 18 mois pour faire une opération de grande ampleur. Parce que ce qui est vrai, qui est un peu nouveau dans ce qui s'est passé hier, c'est les perquisitions en même temps, sur plusieurs sites, etc. Oui. Ça, c'est quand même un petit peu exceptionnel. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se rendre compte que la justice se fasse. Mais nous sommes dans un pays dont la démocratie ne peut pas supporter très longtemps d'avoir les principaux courants politiques qui sont mis sous surveillance judiciaire, qui sont impossibles, qui sont handicapés dans leur expression politique. Je voudrais aller au bout là.
Oui, allez-y, finissez.
Dans leur expression politique, parce qu'ils sont sous surveillance, alors qu'on ne sait pas quand même s'ils sont vraiment coupables et s'ils seront déclarés coupables. Je donne deux exemples. Nous sommes à 18 mois. Par exemple, François Bayrou ne peut toujours pas être ministre, alors qu'évidemment, le président de la République aurait eu besoin d'avoir un François Bayrou dans son gouvernement au dernier remaniement.
Vous trouvez que c'est trop long ?
Oui, c'est trop long. Alors, c'est pas parce que je ne souhaite pas une justice expéditive, mais nous avons deux problèmes. Nous avons une justice trop pauvre, qui n'a pas assez de moyens, alors que des investigations telles qu'elles ont été faites, trois journalistes ou quatre journalistes assez des investigations ont réussi à le faire, la justice avec les moyens qui est là, si elle y mettait les moyens, s'il avait les moyens, elle aurait pu mettre trois semaines ou trois mois, et ça pourrait être déjà quasiment devant un tribunal s'il y avait un jugement à faire. Et deuxièmement, nous avons un problème d'indépendance du parquet. Il y a quand même un problème, c'est que nous avons un parquet qui est toujours dépendant du pouvoir politique, à tel point que le Premier ministre, attention, il faut quand même se rendre compte, le parquet de Paris, son prochain titulaire a été auditionné par le Premier ministre pour savoir s'il était un bon candidat. Ça ne s'était jamais arrivé c'est une histoire qui n'est jamais arrivée dans la fonction, dans la République.
Oui, vous dites donc la question de la séparation stricte
se pose. Il faut une justice indépendante, il faut une justice rapide parce que la démocratie ne peut pas supporter ce type de traitement.
On va essayer d'y répondre. C'est promis, Hervé Anat Nathan. 20h41 sur France Info, le rappel de l'info. Tout d'abord avec vous, Thomas Bénèche.
L'album posthume de Johnny Hallyday sur la route du succès. 300 000 exemplaires de Mon pays, c'est l'amour ont aujourd'hui été vendus. C'est la maison de disques de l'artiste Warner qui l'annonce. Au total, 800 000 copies du dernier album de l'idole des jeunes ont été mises en vente pour satisfaire l'attente des fans. Philippe Grandjean, proche d'Emmanuel Macron, a été nommé ce soir directeur par intérim de La République En Marche, ancien directeur de la communication de Capgemini. Philippe Grandjean succède à Christophe Castaner, nommé lui cette semaine ministre de l'Intérieur. l'intérieur. Une quarantaine de minutes de mise au point et de démenti cet après-midi pour Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file des Insoumis s'exprimait en conférence de presse après les révélations de France Info. Des soupçons de surfacturation de certaines prestations lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Le député Insoumis parle d'une nouvelle campagne d'affabulation. Une nouvelle agression homophobe à Paris. Lundi, selon France Bleu Paris, un chauffeur de VTC s'en est pris verbalement à deux hommes en train de s'embrasser dans son véhicule. Les deux hommes ont porté plainte ce dimanche. SOS Homophobie appelle un rassemblement place de la République à Paris pour dire stop à ces violences répétées. Le centre Zara France à Grande-Synthe près de Dunkerque reste fermé. Le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de cette association pour demander la poursuite de son activité. Il y a quatre jours, le préfet du Nord a ordonné par arrêté la fermeture de ce lieu de culte pour six mois. Il l'accuse de diffuser l'islam radical chiite à l'échelle européenne.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors nous allons poursuivre sur ce qu'avançait à l'instant Hervé Nathan. Je me tourne vers vous, Hamdam Mostafavi. Est-ce qu'il faut tourner la page, couper le cordon en France quand l'on sait que le garde des Sceaux nomme les procureurs? Donc le pouvoir politique, quelque part, a un pied dans la machine judiciaire.
En tout cas, on sait qu'à chaque fois qu'il y a une histoire, une affaire politique, une affaire...
Ça revient à chaque fois.
Ça, c'était le cas dans l'affaire Fillon l'année dernière. C'est toujours le cas. Donc, il faut, à un moment donné, pour l'indépendance de la justice, pour qu'elle puisse travailler correctement, trouver un système qui permette de ne pas vivre avec ce soupçon.
Oui, et vous, que dites-vous, Alexia Germain? Vous aviez commencé à évoquer cette situation très française, finalement. Je ne sais pas si ça existe.
Oui, pour l'élargir, d'ailleurs.
Dans d'autres pays, hein, il faudra qu'on
Nous sommes régulièrement condamnés pour. Oui. Notre système est régulièrement
c'est
condamné
français,
par,
hein.
Les,
pas sous
cette par les instances internationales par le fait qu'on n'a pas un parquet indépendant.
Le même système que le système anglo-saxon. Vous avez un système accusatoire ou un système inquisitoire, et ça va dans le paquet global du système français. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'élargir un petit peu le débat sur la question, en fait, de l'importance des nominations. Parce qu'on a parlé, là, très rapidement de la justice, mais on voit bien aussi l'importance des nominations, notamment le ministère de l'Intérieur. Quand vous avez un tandem tel qu'il a été construit aujourd'hui, homme politique très fort, avec à ses côtés un technicien...
Vous parlez de M. Castaner et M. Nunez.
Exactement.
Oui. Et donc,
quand vous avez un homme politique très proche du pouvoir, lorsqu'il y a des sujets comme cela qui émergent, c'est quelque part aussi une perche tendue pour un certain nombre d'opposants, pour dire qu'il y a une concentration après au niveau policier.
Mais je comprends pas, qu'est-ce que vous feriez à la place du président de la République? Vous nommeriez un opposant à la place Beauvau?
Non, pas du tout. Mais on a eu tout ce débat-là la semaine dernière sur l'opportunité d'avoir des profils plus techniques aux commandes dès le premier niveau pour éviter la notion d'homme du président, quelque part. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas allé jusque-là alors qu'il a été très offensif. Il s'est arrêté finalement comme bouc émissaire, s'est arrêté aux médias.
Alors, ces quatre jours particuliers nous ont montré un Jean-Luc Mélenchon hors de lui, capable d'énervement particulier devant des policiers, des journalistes, ne maîtrisant pas toujours ses nerfs. Il s'en est expliqué cet après-midi.
Vous allez sans doute trouver que, compte tenu de vos bonnes mœurs, je parle trop fort. Et peut-être mes mains bougent-elles trop? Mon visage montre-t-il trop mes sentiments? Je suis un homme, pas une machine. Je suis au terme d'une rentrée politique qui a été bien dense. J'assume mes responsabilités, toutes. Celles dans la campagne, celles dans la conduite de mes assistants parlementaires. J'assume tout, moi personnellement. Par conséquent, il est inutile de persécuter des dizaines de gens, puisque celui qui donne les ordres est devant vous.
Alors, je suis un homme, pas une machine. C'est pas une chanson de Johnny Hallyday, du dernier album. Céline Boisson, c'est acceptable ce que dit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon sur, au fond, ces séquences qui ont été quand même assez féroces ces derniers jours?
Oui, j'ai trouvé ça extrêmement agressif et en même temps, c'est pour moi un cas d'école, en fait, en termes de communication, puisque c'est un média à lui tout seul. Je ne sais pas si vous avez suivi la façon dont il a géré ces quatre derniers jours sa communication sur les réseaux sociaux. C'est très, très bien ficelé, même si, je trouve, alors, on a pu vivre un live de tout ce qui se passait à la fois dans les perquisitions, à la fois fois lors de la conférence de presse, avant, après, avec Sophia Chikirou, qu'est-ce qui était en train de se passer. Il se justifiait. En effet, il prend ses responsabilités, mais il est dans une situation assez difficile. Et je voudrais faire remarquer, notamment dans la conférence de presse, oui, la communication non verbale, avec ses sourcils toujours froncés, ce doigt levé, ce point levé, ces mots. Il y a aucun mot positif. On parle d'assaut politique, on parle d'agression, on parle de bouc émissaire, on parle même de sexisme.
Mais qu'est-ce que vous dites, que c'est une stratégie de communication au fond assez négative, contre-productive, ou alors où il dit quand même j'assume.
C'est une stratégie offensive qui a certes marché pendant les présidentielles, mais aujourd'hui, par rapport à la situation, je trouve l'affaiblit. En tous les cas, à l'heure qu'il est, après cette conférence de presse, je pense qu'il est il est dans une situation où il ne sait plus comment agir ou réagir.
Hamdan Mostafavi, vous pensez que cela peut laisser des traces, y compris au sein de la France insoumise ?
En tout cas, je pense que même si au niveau global, ça ne le sert pas forcément cette stratégie, je pense qu'au niveau des militants de la France insoumise et des partisans en tout cas de la France insoumise, c'est la communication à laquelle ils sont habitués, c'est le Jean-Luc Mélenchon qu'ils aiment.
Qu'ils aiment.
Donc, a priori, se mettre dans cette posture-là, c'est aussi faire oublier ce dont Hervé Nathan parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fond de l'affaire, le fait que les militants n'ont peut-être pas été bénéficié de cet argent dépensé, et de se remettre dans la posture du Jean-Luc Mélenchon qu'ils connaissent et qu'ils ont soutenu dès le départ.
Hervé Nathan, là-dessus, sur les traces éventuelles que peut laisser cette longue séquence.
Alors, chez les Insoumis, il y a une petite minorité qui s'appelle les Insoumis démocrates, qui a pointé le bout de son nez et qui critique l'attitude globale de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle serait contre-productive. C'est-à-dire, ce qu'ils redoutent, en fait, c'est que, au fond, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon va resserrer les rangs en interne, mais va servir de repoussoir pour les campagnes à venir, et que donc ça peut barrer ad aeternam l'accès au pouvoir. Et un des problèmes, quand on regarde l'attitude d'aujourd'hui, on a retrouvé le Mélenchon dans le rôle qu'il préfère. Il le dit d'ailleurs, je suis le tribun du peuple. Quand il explique sa phrase,
oui,
ne
c'est
touchez
son
pas,
rôle de
je suis inviolable, il fait référence, il le dit, il l'a explicité cet après-midi, je suis comme le tribun du peuple de la République de la République romaine au début de notre ère. Donc, et lui, mais le tribun du peuple, c'est celui qui disait veto, qui au nom du peuple, qui disait non, je ne veux pas, mais qui ne gouvernait pas. Et d'une certaine manière, c'est là-dedans qu'il se complaît. Moi, à mon avis, on a l'impression qu'il se complaît
Alexia
dans cette situation-là.
Germain, dernier commentaire très court
on
là-dessus.
On peut aussi penser que cette démonstration d'ego et d'agressivité l'éloigne progressivement de la présidentialisation. Parce que ça montre aussi qu'il n'a pas la maîtrise de ses passions au moment opportun.
Allez, 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Après des soupçons de maltraitance infantile, plusieurs enfants ont été retirés d'une crèche de Sifour-les-Plages dans le Var. Selon deux anciennes salariées qui ont révélé l'affaire, la directrice de l'établissement aurait notamment passé sous l'eau froide certains enfants quand ils étaient agités. Cette crèche du Var accueille des petits âgés entre 3 mois et 3 ans. Jean-Luc Mélenchon demande l'annulation des perquisitions menées mardi matin, entre autres au siège de son parti à Paris. Il souhaite aussi la restitution de tout ce qui a été prélevé. Le chef de file des Insoumis tenait cet après-midi une conférence de presse où il a contester les faits pour lesquels lui et son parti sont mis en cause. Ce matin, France Info a révélé les surfacturations de certaines prestations lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. 150 personnes mobilisées aussi longtemps qu'il le faudra sur les plages souillées du Var. C'est ce qu'indique la préfecture du département. 8 communes font l'objet en ce moment d'opérations de dépollution après la découverte de galettes d'hydrocarbures sur leurs plages. Ces boulettes de fioul proviennent de la collision entre deux navires il y a 10 jours au large du Cap Corse. L'équipe de France de handball, privé de l'une de ses figures emblématiques, Nicolas Karabatic. Le joueur a été opéré aujourd'hui du pied gauche suite à une douleur liée à une déviation de la base de son gros orteil. Nicolas Karabatic sera absent des terrains pendant 4 à 6 mois. Il ne pourra pas disputer le prochain mondial de hand en Allemagne et au Danemark en janvier prochain.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Il nous a quittés il y a 10 mois, mais est-il vraiment parti?
J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. Demain...
m'asseoir à sa table et dire ma vérité.
Voilà, j'en parlerai au diable, extrait du dernier album de Johnny Hallyday. On en parle beaucoup depuis ce matin, en fait depuis la nuit dernière. Figurez-vous, et je l'apprends à l'instant grâce à l'agence France Info, l'album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, donc a été vendu à 300 000 exemplaires dès le premier jour. Avant de vous faire réagir autour de cette table, je voudrais qu'on écoute d'abord les fans, ceux qui se sont précipités dans les magasins pour acquérir l'objet culte.
C'est moi, c'est comme si je repère mon père.
Comme si c'était votre papa.
Il n'y a pas de mots pour mettre dessus.
On ne peut pas pleurer, il est toujours dans notre cœur, il restera jamais dans notre cœur. Jojo, il est inoubliable.
L'émotion en fleur de peau, là, quoi, c'est bien ça.
C'est sa renaissance.
Céline Boisson, Johnny Hallyday, une légende française, ça vous parle ?
C'est une icône, hein, c'est une légende. Je trouve ça assez génial, en fait, de pouvoir vendre en moins de 24 heures 300 000 albums. Je pense que les 800 000 seront vendus ce week-end. Je pense qu'il va falloir en rééditer. Je pense que si ça se trouve, il y en aura des numérotés pour les super collectionneurs. Et peut-être, parce que vendre un album posthume quelques mois après la mort, c'est assez exemplaire. Mais je voulais juste rappeler que David Bowie aussi avait sorti son album 48 heures après sa mort.
Oui, Black Star, oui.
Et il en a vendu presque 2 millions. Alors, peut-être que Johnny, dans le monde, peut-être que Johnny Hallyday en vendra 2 millions en France.
Alors,
on verra
alors,
s'il battra le record.
Nous verrons bien. Hamdam Mostafavi, est-ce qu'au fond, il y a là l'expression d'une forme de dépression française ? Après tout, on voit ces larmes, cette émotion. C'est comme si l'ami de la famille était parti.
Oui, il y a surtout l'envie d'une communion nationale autour de quelqu'un qui représente la France de manière totalement consensuelle et sans. On l'a vu pendant la Coupe du Monde. On a envie toujours d'avoir des grandes figures nationales autour desquelles on peut se retrouver. Et Johnny, surtout dans la mort, parce que c'est toujours on accède au statut de légende et il n'y a plus de place pour la polémique. Là, incarne un peu cette image et c'était certain que son album allait avoir un grand retentissement.
Alors Hervé Nathan, hein, toutes les générations depuis les années 60 par couches successives.
Pourquoi moi
J'étais sûr que vous répondriez ça. C'est marrant. Hein. Mais il se retrouve un petit peu dans l'œuvre de ce grand personnage. Vous êtes surpris par la réaction des fans?
Non, pour deux raisons. La première, et c'est une raison de fond, c'est que probablement, et je pense que c'est ce que pensent les fans qui se sont précipités, Johnny Hallyday savait qu'il allait mourir, que ce disque sortirait après sa mort. Et donc, d'une certaine manière, un aspect, pour le coup, il y a quelque chose d'extrêmement poignant. D'accord. Donc, pour ceux qui ont aimé Johnny Hallyday profondément, qui l'ont suivi, c'est son héritage, c'est celui-là. Il y a l'héritage que se disputent les héritiers, l'ego, et puis il y a l'héritage que les fans attendaient, c'était celui-là. L'autre chose, c'est que, c'est drôle, on a parlé de campagne de communication pendant trois quarts d'heure. Oui. Là, la campagne de communication qu'il y a eu pour vendre 300 000 exemplaires en une journée, je pense qu'on peut la raconter aussi, a été remarquable. Personne ne l'a contesté, et il y a sûrement beaucoup de gens qui se sont fait beaucoup d'argent, parce que c'est pas Johnny Hallyday qui va récupérer l'argent des 300 000, parce que c'est pas lui qui les vend, c'est d'autres gens qui les vendent.
Ça vous choque, ça?
Non, pas du tout, mais c'est le business. Mais autant dire que c'est du business. Parce que, il y a de l'émotion, et pas dire qu'il y a du business quand c'est quand même un business, l'entertainment, bon.
Alexia Germont, est-ce qu'il y a un effet miroir de la société française dans ce à quoi on assiste?
En tout cas, il était à l'intérieur totalement fondu dans la société française. Johnny Hallyday, c'était ça, et je trouve que les fans sont très touchants de ce point de vue-là. C'est vrai que le côté... alors, vous parlez de communication, moi, je dirais plutôt marketing. Il y a peut-être des différences techniques. Mais alors, je trouve que du point de vue marketing, les fans sont finalement assez sympathiques de ne pas tenir rigueur à cette famille qui aurait pu avoir un côté plus responsable.
Elle a mis les conflits entre parenthèses,
le temps
de la sortie de l'album. Mais
c'est bien
ça va
tombé.
Reprendre bientôt.
Ça va reprendre bientôt. Ça, j'aime moins.
Céline Boisson, dernier mot là-dessus. Campagne marketing exceptionnelle.
Très bonne campagne marketing, mais je trouve que c'est assez facile finalement, puisque la cible, elle est là, elle sera toujours là. Donc, quoi qu'il fasse même mort, ça marchera. Donc finalement,
c'était le cas outre-Atlantique avec Elvis Presley. Il y a quelques similitudes. Alors, Hamdam Mostafavi, qu'y a-t-il à la une de Courrier International?
Macron, ça repart avec son équipe remaniée. C'est la question que se pose la presse étrangère cette semaine en une de Courrier International.
Voilà, le Premier ministre et le Président sont à bord d'une magnifique deux chevaux. À la une également de Marianne, avec vous Hervé Nathan.
Le mécénat bidon de Bernard Arnault, c'est-à-dire comment la fondation Louis Vuitton est en fait, que tout le monde célèbre et qui effectivement fait des expositions absolument formidables, magnifiques en ce moment sur Basquiat et Engonchil, en fait est aussi une énorme pompe à finance, aux dépens des contribuables français, puisque c'est un énorme profit fiscal.
Allez, je rappelle votre ouvrage, Alexia Germant, Réveillons notre Europe, à paraître jeudi chez Temporis. Pour ma part, ravi d'avoir passé cette soirée avec vous. Les informés demain soir, ce sera avec Pierre Neveu, et toute la semaine prochaine avec Olivier Delagarde. Bon week-end.